Citoyens, écoutez-moi. La Convention est dominée par des fous et par des criminels. Des mots durs, je l'admets. Mais comment appeler autrement des hommes tels que Marat, qui peut réclamer 100 000 têtes aussi facilement que l'on dit bonjour? Ce sont ces hommes qui menacent de transformer le pays en un immense charnier.
Radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez le 35e épisode de Transhistorien, qui sera présenté par moi-même ainsi que par mes camarades Marie et Pierre. Bonjour.
Bonjour, camarade Solène.
Bonjour, camarade Solène.
Alors aujourd'hui, nous accueillons Olivier Coquart. Bonjour, monsieur.
Bonjour, citoyen journaliste.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, vous enseignez au lycée Henri IV et vous êtes également un spécialiste de la Révolution française et plus particulièrement de Jean-Paul Marat, auquel vous avez consacré une thèse et une biographie. Alors, dans le cadre de cette journée de la radio dédiée à l'engagement politique, nous vous interrogerons sur la presse en Révolution. Et plus spécifiquement sur les journaux révolutionnaires qui ont foisonné à partir de 1789. Marie, on peut peut-être commencer par planter le décor et mettre en contexte la question des médias comme relais d'opinion à cette période.
Avec plaisir, Solène. Alors on peut se demander d'abord, Monsieur Coquart, quels sont les médias en présence au cours de la Révolution, les moyens d'expression et d'opinion. Comment est-ce qu'on exprime des opinions politiques à partir de 1789 ?
La première question est probablement la plus importante et c'est celle qui a fait l'objet du plus de réflexion ces 30 dernières années. Alors on va décomposer. Sur quels médias, tout d'abord, le média vocal est probablement le plus important et c'est ce média qui relaie en particulier ce qui relève de l'écrit, c'est-à-dire que les journaux, les pamphlets, les libelles, les affiches, les placards, vous avez une nomenclature importante, sont destinés à être lus et à être lus publiquement, ce qui a d'ailleurs des conséquences majeures sur la façon dont ils sont rédigés. Alors, donc vous avez l'écrit et plus encore l'oralisation de cet écrit. La deuxième question, c'est le « où » et partout où l'on peut s'exprimer, vous avez des cabarets qui sont bien connus, des cabarets qu'on va dire des cabarets réactionnaires ou royalistes comme le Café de Chartres. Vous avez des cafés de gauche ou républicains comme l'épicerie du Sieur Chollat, producteur de chocolat près de la Bastille. Et puis vous avez les jardins comme les jardins du Palais Royal, comme les jardins qui se trouvaient à l'époque autour de la nouvelle place royale de Lyon, la place Bellecour, où on vend également énormément de ces libelles et où on les crie pour mieux les vendre.
D'accord. Petite question, est-ce qu'on est mieux renseigné sur Paris que sur la province pour la période révolutionnaire ou est-ce que c'est à peu près équivalent ?
Ça a très longtemps été une surreprésentation parisienne et depuis le bicentenaire qui a apporté beaucoup d'encouragement sur tous les plans aux historiens depuis l'époque du bicentenaire, la province est maintenant très très bien connue.
Et donc, concernant justement les médias de manière générale, vous avez parlé des différentes affiches qu'on peut placarder, mais aussi de tous ces textes qui seront lus à tout le monde. Est-ce que du coup, concernant ces médias, on peut constater une évolution entre la période pré-révolutionnaire et la décennie révolutionnaire ?
Oui, très clairement, la politique a investi le champ de la presse. Jusqu'à la Révolution française, la presse, même lorsqu'elle est informative, on pense à la fameuse Gazette créée en 1631 par Théophraste Renaudot, bien sûr, cette presse est une presse qu'on pourrait qualifier de neutre si on croyait un seul instant à ce terme. À partir de 1789, et l'historien Pierre Rétat a même évoqué le 14 juillet 1789, on assiste à une véritable révolution de la presse où la politisation de l'information devient un élément majeur du discours journalistique.
Et au niveau de la quantité ou du type de médias, est-ce qu'il y a un changement ou est-ce qu'on ne fait que réutiliser ce qui existait déjà ou est-ce qu'on décide d'inventer, de justement changer les médias ?
Alors le roi Louis XVI avait imposé que seuls 36 imprimeurs, je crois, tout à fait sûr du chiffre, mais une grosse trentaine d'imprimeurs puissent travailler à Paris En 1789, à la fin de la Révolution française, rien qu'à Paris, il y en a plus de 200. Et le nombre est de plus d'un millier sur toute la France, alors qu'il était seulement de 200 en 1789. Donc le nombre des supports de cette impression, de ces imprimeries de journaux a considérablement cru. Et on a peut-être une trentaine de journaux, tout compris, disponibles en France à la veille de la Révolution française, en y comptant les affiches, annonces et avis divers de la ville de Caen, enfin un journal de petites annonces quoi, on est à 1300 à la fin de 1789.
Et qu'est-ce qui, selon vous, a permis justement ce développement de tous ces journaux entre ces deux périodes ?
Alors, la politisation de l'opinion publique, qui est vraiment passionnée par la Révolution française. Je fais partie de ces gens qui pensent que l'une des particularités de cette période, c'est qu'elle a été vécue. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'ils vivent dans le Moyen-Âge, les gens ne savent pas qu'ils vivent dans l'Ancien Régime. En revanche, ils savent très très bien qu'ils sont en révolution. Ils le savent, ils le disent, ils le ressentent, ils l'entendent, ils l'expriment. Et ça, c'est très net entre 1789 et 1799. C'est le premier point, conscience politique. Le deuxième point, possibilité économique. C'est pas cher. Faire un journal, ça n'est pas comme aujourd'hui nécessiter la mobilisation de moyens financiers incroyables. Ça revient à quelques centaines de livres tournois en 1789. C'est à la... Un bourgeois un peu installé, s'il a quelques amis, peut subventionner un journal même très lu, comme le Patriote français de Brissot, par exemple.
D'accord. Alors, on a parlé de la différence entre la période pré-révolutionnaire et la décennie révolutionnaire. Est-ce qu'on peut maintenant parler de la différence de production de médias d'opinion au sein de cette décennie révolutionnaire entre les différentes tensions, la monarchie constitutionnelle, ce qu'on appelle la terreur?
Oui, bien sûr. Vous avez une scansion législative. Hein. En 1789, Louis XVI, qui probablement ne mesure pas exactement les conséquences de ce qu'il fait, demande à tous les gens éclairés de son royaume de lui donner des idées pour les états généraux. Alors évidemment, les gens leur donnent la parole. Hein. Comme le dit le roi Arthur dans Camelot, bah, ils la prennent, qu'est-ce que vous voulez.
Et là, on approuve cette référence.
Absolument. Vous avez une période de liberté incroyable de la presse, mais vraiment véritablement incroyable, entre le printemps 1789 et le 10 août 1792. En 1792, alors quand je dis qu'elle est incroyable, c'est une liberté de fait, parce que dans le détail, vous avez plusieurs mesures qui ont été prises pour tenter de la brider, mais quand on n'a pas les moyens de faire appliquer la loi, la loi n'est pas appliquée. À partir du 10 août 1792...
Alors, simple parenthèse, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez rappeler ce que c'est comme événement ? Tout le monde n'est pas forcément historien.
C'est vrai, excusez-moi. Donc le 10 août 1792, les Tuileries sont prises et c'est la fin de la monarchie constituante. La monarchie est abolie, le roi est déchu, après avoir eu une attitude très décevante, si je peux me permettre un jeu de mots crétin.
Merci pour ce petit point.
Je vous en prie. Après le 10 août, une très grande modification a lieu, puisque un certain nombre de journaux sont interdits et, plus grave, les imprimeries sont soit saisies, soit brisées. Hein. L'imprimeur Sulot, par exemple, un certain nombre de journaux réactionnaires disparaissent ou éventuellement, pour certains d'entre eux, entrent dans la clandestinité. On a une période de répression qui n'empêche pas d'ailleurs une vraie diversité à l'intérieur du paysage médiatique. Période de répression qui connaît les fluctuations qu'on attribue généralement au gouvernement révolutionnaire, ce qu'on appelle souvent la terreur. Et à partir de Thermidor, pendant un an, il y a une espèce de nouveau souffle de liberté absolue qui semble gonfler les voiles de la liberté de la presse. Je suis venu à bout de ma métaphore. Après le coup d'état de Fructidor, qui est un coup d'État républicain. Après le coup d'État de Fructidor, à nouveau, on a une répression contre la liberté de la presse jusqu'à l'épisode napoléonien. Et Napoléon Bonaparte est quelqu'un qui sait faire les choses, et donc il n'y a plus de liberté de la presse pendant pas mal de décennies, en fait.
D'accord.
Alors, comme on l'a dit et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les journaux révolutionnaires ne sont pas un phénomène exclusivement parisien. On en trouve en Provence et il semble que les chercheurs se sont intéressés à ces cas-là. Alors, justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la production journalistique en Provence et comment l'information circule également entre Paris et on va dire le cœur révolutionnaire sans culotte et les villes de province.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, enfin depuis le milieu du XVIIIe siècle, les voies de communication se sont considérablement améliorées en France. Il n'y a plus de bandits de grand chemin et il faut quelques jours pour relier une grande ville comme Paris à une autre grande ville comme Lyon. Ça se fait beaucoup plus rapidement que dans les siècles précédents et avec beaucoup moins de risques malgré la célèbre affaire du Courrier de Lyon. Les nouvelles sont transmises tout simplement par les diligences, par les turgotines, par les malpostes, par les biais qui sont, à l'époque où il n'existe pas de réseaux informatiques, les biais mécaniques dont on dispose. Ces nouvelles, elles sont également répandues par un média beaucoup plus difficile à contrôler qui est la rumeur, mais la rumeur va dans tous les sens, c'est-à-dire que les Parisiens reçoivent des rumeurs de province et les provinciaux reçoivent des rumeurs de Paris dans une sorte d'équilibrage des bobards. Le troisième point, c'est que assez rapidement, des correspondants sont y compris appointés par les journalistes de Paris en province et de province à Paris. Ça a été étudié pour la Normandie, par exemple, par Eric Wauters, pour la presse de province normande. Donc, vous avez somme toute des moyens d'information qui sont relativement comparables à ceux que l'on connaît encore aujourd'hui. Hein. On écoute ce qui se dit, on envoie des reporters, on a des correspondants, et puis avec les délais qui sont un peu plus longs que ceux dont nous disposons aujourd'hui, eh bien, on traite cette information.
D'accord. Alors pour revenir un peu aux journaux plus spécifiquement, une petite question annexe. Est-ce que des historiens se risquent à une estimation de l'audience de ces journaux ? Et si oui, comment font-ils ?
Alors, de ce point de vue-là, c'est relativement facile. Ça a été fait pour Le Patriote français, ça a été fait par Jean-Paul Berthaud pour les révolutions de Français de Brabant de Camille Desmoulins, puis pour Le Vieux Cordelier du même Camille Desmoulins. On a deux types de sources principales. D'une part, beaucoup de ces journaux fonctionnent par souscription, c'est-à-dire par abonnement. Et donc, quand on a de la chance, on retrouve les listes d'abonnés et on sait qu'il y a plusieurs milliers d'abonnés, par exemple, au Patriote français. Et puis, une partie de ces journaux utilise des correspondances, enfin, publie de la correspondance qui permet d'avoir une sorte de panel géographique d'une source différente de la source institutionnelle. Il y a une troisième source qui est très rigolote et que j'aime beaucoup, c'est les rapports des policiers, les rapports des agents de surveillance qui sont absolument omniprésents dès 1789 et qui, dans un certain nombre d'archives, je pense à la série BB des archives de la Seine, nous font des rapports très précis sur, voilà, on a lu le journal de Marat, il y avait 40 personnes qui étaient là et qui étaient très très contentes visiblement.
Et pour les autres médias en général, toujours cette question, quelles sources est-ce que les historiens ont pour justement jauger de l'importance de ces médias ?
Et pour étudier ces médias, d'une manière
générale. Aussi, tout simplement.
Alors, il y a des médias comme la chanson, qui sont des médias très actifs, on le sait, puisque nous avons récupéré un certain nombre de chansons. Nous ne pouvons, dans l'état actuel de la recherche, pas vraiment travailler sur leur réception quantitative. On peut travailler sur des réceptions qualitatives. Déjà, une bonne partie de ces chansons ont été conservées, ce qui signifie qu'elles avaient la capacité d'être conservées. Et puis, ensuite, ces chansons, elles expriment des choses. Elles expriment des choses dans le rapport entre la musique et le texte. Il est vrai qu'en termes quantitatifs, on est un tout petit peu dans l'impuissance. Là, on a un vrai problème de source, puisque nous ne disposons pas des instruments de comptage du streaming qui étaient évoqués dans la partie précédente de cette magnifique journée.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques grands journaux emblématiques de la période révolutionnaire et leurs positions politiques respectives ? Deux ou trois, comme ça.
Il y en a un que j'aime beaucoup, ce sont les Actes des Apôtres d'Antoine Rivarol, hein, qui est donc un journal royaliste, qui est un journal satirique, qui est une sorte de de canard enchaîné à l'envers, dans lequel cependant, au lieu d'avoir une information qui est toujours vérifiée, comme c'est le cas du canard enchaîné, c'est pour ça qu'il est vraiment à l'envers, vous avez de la littérature, c'est-à-dire que vous avez des poèmes, vous avez des pamphlets, vous avez des textes métaphoriques, vous avez des réflexions un peu foutraques, sur plusieurs dizaines de pages, hein, c'est 50-60 pages parfois, avec une iconographie en frontispice, donc en haut de la première page qui est très travaillée, et on a là une expression journalistique qui est assez originale, qui ne me semble pas avoir eu d'énorme postérité, parce qu'il semble que les actes des apôtres avaient un véritable public très divers, y compris parce que ça se lisait très bien. Donc ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a mon ami du peuple à moi que j'ai, hein, bien sûr.
Bien sûr.
Qui est donc, alors que les Actes des Apôtres sont rédigés, comme leur nom l'indique, par un collectif, même si Rivarol en est le responsable, eh bien, l'ami du peuple est rédigé par un seul homme, Marat, qui rédige, alors il faut se rendre compte du boulot, hein, qui rédige à peu près 8 à 16 pages in octavo, encore 8, c'est-à-dire que ça représente à peu près 60 000 signes par jour. Mais, voilà. Ouais, non, mais tout de suite, ça calme. Hein. Sans compter qu'accessoirement, il fait d'autres trucs. Il se renseigne. Puis à la fois, entre 1789 et 1792, d'où l'importance de mettre de temps en temps des lettres de lecteurs, dont il écrit un certain nombre, mais dont un certain nombre sont authentiques.
Alors justement, on va revenir pour les prochaines questions sur ce journal, L'Ami du Peuple. Alors tout d'abord, voici un petit extrait sonore qui nous rappelle les circonstances de la mort de ce révolutionnaire.
Comment ça, il n'y a pas de jingle? Ce jingle était excellent pourtant. Non. Vous allez Parce beaucoup décevoir Pierre.
Charlotte est morte.
Tu veux voir le citoyen Marat tout nu dans son bain? Comment t'appelles-tu?
Charlotte.
Mais tu as de beaux yeux, citoyenne. Approche un peu ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, mais dis donc, tu as de beaux seins.
C'est vrai, tu les aimes, citoyen?
Viens, Charlotte, viens.
Oui, Marat.
Ah, Charlotte.
Ah, Marat.
Et comme tu as l'air méchante tout à coup.
C'est pour mieux te faire peur, gros voyou.
Et pourquoi caches-tu ce grand couteau?
C'est pour mieux te saigner, mon salaud. Tiens!
Alors voilà, on a pensé que vous apprécieriez.
Je l'adore, je l'ai dans.
Ça aurait été dommage.
Je l'ai dans ma playlist, évidemment.
Alors ouais, c'était un extrait de La Révolution française, donc l'opéra rock, et je crois, Pierre, que ça t'a inspiré une petite question.
Oui, voilà. Alors c'est une petite dédicace à vous que j'ai passé cet extrait, et du coup une question qui me taraude, c'est à part mourir à cause d'une Charlotte dans une baignoire, qu'est-ce que Marat a fait?
Ben, il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit. Avant la Révolution, il a été un savant tout à fait respectable et même plutôt estimé. Le meilleur traducteur de l'optique de Newton, qu'il détestait par ailleurs, mais reconnu comme tel par un historien comme Michel Blais, hein, qui est vraiment une des autorités en matière d'histoire des sciences. Donc c'est un savant des Lumières, modèle standard, pas génial, mais compétent.
De quel milieu social vient-il ?
Pardon ?
De quel milieu social vient-il ?
Son père est un touche-à-tout et propre à rien, héritier de... Enfin, son père est probablement un curé défroqué venu de Sardaigne. Et sa mère est une protestante venue, dont les origines se trouvent à Nîmes, et émigrée à Genève après la révocation de l'édit de Nantes. Enfin bon... On est sur un milieu qui est un milieu à la fois un peu cultivé, pas très riche, ils sont une flopée d'enfants là-dedans, mais ils font tous, ils savent tous lire, écrire, et beaucoup d'entre eux font des carrières plutôt honorables. Hein. L'un de ses frères s'appelle Monsieur de Boudry et est l'un des grands professeurs de français au lycée de Tsarskoye Selo. Il a été professeur de Pouchkine, c'est le lycée de Saint-Pétersbourg.
D'accord. Et donc, du coup, il vient de ce milieu familial. Et alors, en 1789, que se passe-t-il pour Marat?
Bah, il voit la possibilité qui est pour lui extrêmement inattendu de pouvoir tenter de réaliser ce dont il a rêvé depuis très longtemps, c'est-à-dire faire la révolution. Et il est entré en révolution, ça c'est assez étonnant, il est vraiment entré en révolution.
D'accord, alors on va reparler un peu plus de l'ami du peuple. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la forme que prend ce journal, sur son rythme de parution et sur les rubriques qu'on y trouve ?
Alors, c'est un in-octavo, donc c'est un journal je sais qu'il y a là, hein, donc, qui est fait à peu près la taille d'un livre de poche, qui fait entre 8 et 16 pages, hein, vous savez que ça dépend du nombre de feuilles qu'on plie, qui est quotidien. Et alors, il n'y a pas de dimanche, hein, et tous les jours, sauf quand vraiment Marat est trop fatigué, ou quand il a des problèmes avec la police, ou quand il se sent trop malade. Et vous avez un article avec quelques petits ajouts du genre farcesque. On m'apprend que le cocher de monsieur de Lafayette est atteint d'une grave grippe. J'ai vu que toute la presse s'était inquiétée du fait que monsieur de Lafayette était malade, et donc je donne des nouvelles de son cocher aussi. Donc c'est le côté un peu kikoulol de Jean-Paul Marat, et un peu facétieux comme garçon. Et puis vous avez du courrier des lecteurs dont l'authenticité est attesté pour une toute petite partie, parce qu'on a retrouvé des documents de la police, des saisies de la police confirmant que les lettres étaient vraiment des lettres de lecteurs, et dont l'inauthenticité est avérée pour une autre partie.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la différence entre ce mode d'expression et les médias d'opinion actuels ? À quel point est-ce différent, ou à quel point est-ce qu'il peut y avoir des similarités ?
Alors, pour l'ami du peuple, c'est le journal d'un homme. C'est qui d'ailleurs est à lui, devient une métaphore. Il devient une métaphore. Ce qui est remarquable, c'est que lors de sa mort, on s'aperçoit que la métaphore a été intégrée par une partie de son public. C'est-à-dire que ses funérailles, qui ont fait l'objet de beaucoup de travaux, montrent qu'on a bien compris que le corps de Marat, c'était le corps de la République et le corps de la France, hein, et que les souffrances qu'il endurait étaient celles qu'enduraient la France et la République. Donc ça, c'est une première différence. Deuxièmement, il travaille absolument tout seul. Alors, il travaille avec des imprimeurs, Madame Colombe, il travaille avec des ouvriers d'imprimerie, comme le futur maréchal Brune, donc on en connaît quelques-uns. Mais c'est le journal d'un homme, et d'un homme qui cultive sa solitude de façon extrêmement efficace, extrêmement attentive, parce que de sa solitude dépend aussi son image. Et puis c'est le journal d'un homme qui est convaincu qu'il a raison envers et contre tous. Et c'est pas exactement un homme de compromis, ce qui explique d'ailleurs que son importance politique soit limitée.
Alors, votre thèse sur Marat, elle porte le sous-titre suivant, étude de la correspondance insérée par Marat.
Non, ça, c'est pas ma thèse, c'est ma maîtrise.
Votre maîtrise, pardon. Oula. Donc, étude de la correspondance insérée par Marat dans ses journaux. Alors, justement, on parlait des rubriques et de la forme que prend l'ami du peuple. Pourquoi Marat insérait-il donc des extraits de
Parce que ça se faisait dans la presse depuis le XVIIIe siècle, depuis le début du XVIIIe siècle. La Gazette de Leyde en particulier, le journal de Paris, on insère normalement du courrier des lecteurs, ça fait partie des y compris en province, hein, y compris dans ces journaux d'affiches ou dans les journaux de province dont on a pu parler tout à l'heure, on insère normalement du courrier des lecteurs comme on le fait encore aujourd'hui.
D'accord.
Et enfin, une petite question pour clôturer cette interview concernant la Révolution française et Marat notamment. Une petite question cette fois-ci sur la façon dont l'historien écrit l'histoire. Voilà, vous venez de parler de votre maîtrise, donc, et vous avez aussi fait une biographie de Marat après cela. Et donc la question, c'est pourquoi faire une biographie en histoire ? Qu'est-ce que ça apporte ? À quoi sert cette forme spécifique d'écriture ?
Alors, la biographie, j'ai même fait, c'est ma thèse, hein. J'ai fait une thèse en biographie volontairement. À l'époque, c'était pas exactement à la mode, et on m'a d'ailleurs demandé, au moment où j'ai présenté mon projet de thèse, si j'étais un historien ringard.
Oh.
Ce qui n'est pas forcément une insulte, hein. Je fais partie des profs qui font courant en cravate, etc.
C'est bien vrai, d'ailleurs, je suis étonné de ne pas vous voir avec une cravate fantaisie aujourd'hui.
C'est clair, je ne fais pas cours. Donc, parce que pour moi, la biographie, c'est le moyen d'aborder de la façon la plus concrète possible la chair de l'histoire. Les chiffres ne m'intéressent pas, les idées ne m'intéressent pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la chair, les hommes, le sang, les caractères, la vie, la drôlerie, le vin.
Ce genre de choses.
Et ce genre de choses.
D'accord. Et dans la forme même de l'écriture biographique, comment est-ce qu'on écrit une biographie de manière à ce que ça ne soit pas purement factuel et qu'on peut tirer comme niveau de généralisation, par exemple ?
Tout fait est révélateur. Si un jour on fait la biographie de Monsieur Lemuel, la journée d'aujourd'hui permettra d'abord de voir comment il intègre son propre ancien cursus dans ses pratiques, comment il professionnalise ses pratiques, ce que ça révèle sur la capacité d'une institution, l'École normale, à recevoir toute une série de gens. C'est-à-dire que un biographème, hein, pour utiliser une notion de Roland Barthes, l'historien l'étudie comme un fait historique, c'est-à-dire comme porteur de sens quant à la compréhension du temps passé.
Mais c'est très beau ce que M. Coquard dit sur toi, Pierre.
J'espère que tu te sens flatté.
Honoré.
Vous êtes un paradigme honorable.
Alors, une dernière question, la question traditionnelle par laquelle on conclut les émissions de Transhistorien où on reçoit un invité ou une invitée. Quel conseil, au singulier ou au pluriel, est-ce que vous donneriez à de jeunes historiens ?
Prenez du plaisir.
Très bien. Eh bien, Olivier Coquard, merci d'être venu jusqu'au plateau de Transhistor
pour répondre
à nos questions. Mais c'était vraiment un plaisir. Merci d'être venu nous parler d'engagement sous la Révolution française en général et du journaliste Marat en particulier. Et merci à mes camarades, merci au citoyen Pierre et à la citoyenne Solène qui s'envole très très loin parce qu'elle a un partiel à passer. Merci donc de m'avoir aidé à préparer cette émission.
C'était Transhistorien, une émission de Solène, Marie et Pierre, avec pour invité l'historien Olivier Coquard. Avant de retrouver les yeux et les oreilles, dans l'émission Les yeux ont des oreilles, qui vont nous parler, qui vont lire de grands débats des présidentielles de la Ve République, tout de suite, un flash info.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, le QG de campagne de Marine Le Pen a été l'objet d'un incendie criminel. Les pompiers, qui sont intervenus vers 2h40 du matin, ont rapidement contrôlé le feu, qui n'a pas fait de dommages violents. L'AFP a reçu un communiqué anonyme qui revendique ce geste. Il s'agirait d'un groupe qui dit s'appeler Lutte contre la xénophobie et qui indique que ça va continuer tous les jours jusqu'aux élections. Marine Le Pen a annoncé ce midi sa décision de porter plainte. Un appel au secours, c'est ainsi que les gardiens des maisons d'arrêt de Villepinte qualifient leur mobilisation. Ce matin, une soixantaine de surveillants pénitentiaires ont bloqué l'entrée de la maison d'arrêt pour dénoncer la surpopulation carcérale et des conditions de travail qu'ils jugent dégradantes. Jeudi matin, encore plus de 300 salariés du chantier naval STX de Saint-Nazaire se sont mis en grève pour dénoncer la faiblesse des salaires. Les salariés se sont notamment réunis autour du paquebot MSC Meraviglia. Aujourd'hui, Christiane Lambert est officiellement devenue la première femme présidente de la FNSEA, le premier parti agricole français, à l'issue du vote de son nouveau conseil d'administration. Aujourd'hui encore, le diocèse de Rouen a annoncé l'ouverture du procès en béatification du père Jacques Hamel. Ce prêtre catholique avait été assassiné dans sa propre église de Saint-Étienne-du-Rouvet dans le département des Seines-Maritimes par deux djihadistes. Actualité internationale maintenant. Ramzan Kadyrov, le chef du gouvernement autocratique tchétchène, a répondu d'une façon pour le moins perturbante à la vague d'indignation internationale qui a succédé à la publication de rapports faisant état de la présence de camps de concentration anti-homosexuels en République tchétchène. Selon les mots mêmes de son porte-parole Alvi Karimov, c'est tout simplement impossible d'enfermer et de maltraiter des personnes qui n'existent pas dans notre pays. Il a également rajouté « En Tchétchénie, les hommes mènent une vie saine, jouent au sport et n'ont qu'une orientation qui est déterminée au moment même de la création. »
Merci Robin pour ce flash info et maintenant je vous laisse en compagnie des yeux ont des oreilles.